Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Dans plusieurs familles congolaises, le dialogue tend à disparaître. La télévision occupe l'attention de tout le monde. On n'a pas le temps de discuter. Il y a encore les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a Facebook. Les enfants sont sur Facebook, soit les parents. Donc on n'a pas le temps de dialoguer. Voilà. Les parents prennent des décisions qui concernent les enfants sans en discuter au préalable avec eux. Certains parents pensent même que le dialogue permanent avec les enfants risque de les entêter, c'est un moyen pour les entêter. Alors, quels sont les avantages du dialogue au sein de la famille? Quand il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce que cela entraîne comme répercussions, comme conséquences? Eh bien, on va discuter de ce, on va parler avec notre invité de ce thème, Isidore. Bah, il s'appelle Isidore Bamanaï, il est éducateur à la vie. Isidore Bamanaï, la première question est de savoir, on parle du dialogue au sein de la famille. D'abord, c'est quoi le dialogue?
Le dialogue, c'est une sorte de communication qui consiste non seulement à transmettre un message, mais surtout à échanger des idées, des points de vue sur un sujet donné. Pour qu'il y ait dialogue, il faut que, à un certain moment, il y ait changement de rôle. L'émetteur devient écouteur et l'écouteur devient aussi émetteur autour d'un sujet. Il n'y a pas monologue, si c'est entre les époux, si c'est entre les parents et les enfants, il n'y a pas monologue. Le sujet est là, il faut en débattre. Celui qui prend la parole le premier se fait écouter par les autres. Quand il termine, il attend que les autres disent aussi ce qu'ils pensent. C'est ainsi qu'on échange, on cherche le juste milieu, on cherche le chemin à suivre. On arrive à une conclusion. En ce moment-là, je crois qu'on peut parler d'un dialogue. S'il n'y a pas de feedback, s'il n'y a pas de réaction retour, il n'y a pas de dialogue, il y a monologue. Donc, je pense que c'est cela qu'on peut comprendre par le dialogue.
Et pourquoi est-il important d'instaurer le dialogue au sein de la famille?
Écoutez, les personnes humaines sont appelées à communiquer. Je crois que même les autres êtres vivants communiquent à leur manière. Les oiseaux communiquent, les bêtes communiquent. À plus forte raison, les personnes humaines qui ont des idées, qui ont chacun sa vision, qui ont chacun sa manière de voir les choses, sont appelées à communiquer parce que ils vivent dans une relation, ils vivent ensemble. Donc s'il n'y a pas communication, c'est vraiment chacun dans son coin. Chacun s'occupe de ses oignons. Le dialogue permet qu'on échange des idées, et quand on échange des idées, il y a moyen de se découvrir, il y a moyen de se connaître les uns les autres. Le dialogue permet aussi d'améliorer le climat, de résoudre des petits problèmes s'il y a eu des conflits, d'aplanir les divergences, de se mettre sur la même longueur d'onde et ainsi affermir les liens, affectuer les liens d'amour entre les membres d'une famille.
Voilà, ce sont là les raisons qui font que le dialogue soit important dans une famille. Mais aujourd'hui, quelles sont les causes qui font que le dialogue tend à disparaître dans bon nombre de familles en RDC?
Je crois pour moi que la première cause, c'est l'éducation que l'on a reçue dans sa famille. Si quelqu'un a grandi dans une famille où il n'y a qu'un père qui part, les autres doivent seulement écouter comme un pasteur qui prêche devant une foule et peut-être dire amen à la fin de son speech. Il grandit avec cette image et alors, même plus tard dans son foyer à lui, il a l'image de son père qui avait la parole et que les autres l'écoutaient. Donc c'est d'abord un problème d'éducation. Ces derniers temps, comme vous l'avez dit, on est trop occupé en dehors de la famille, comme ce mois de mars ici, j'entends souvent qu'on veut pousser les femmes à s'intéresser à la politique, ce qui fait qu'elles seront plus dehors que dedans. Si on n'a pas assez de temps, on rentre fatigué, on rentre tard, c'est difficile qu'on puisse se mettre autour d'une table pour échanger. Chez nos ancêtres, c'était autour du feu. Même parfois, on trouve que tous les autres ont déjà mangé et que même on est déjà endormi. Je crois qu'ici, on est trop occupé ailleurs. Il y a une autre cause, c'est un manque de considération. Si l'homme considère que la femme n'a rien à lui dire, elle n'a qu'à recevoir les instructions. Si les deux, les parents disent, bon, les enfants sont nos enfants, ils doivent suivre nos directives sans broncher, c'est un manque de considération pour la personne qui est à côté de nous. En ce moment-là, ça va freiner le dialogue. Mais il y a aussi des personnes timides. Les personnes timides communiquent difficilement. Ils ont peur de la communication. Ils ont peur d'échanger autour d'une idée. Mm-hmm. Et c'est ainsi que parfois, quand vous voyez dans la politique, tous les grands dictateurs sont des timides. Ils ne veulent pas échanger avec les autres parce qu'ils disent on risque de m'avoir sur le terrain et détruire mes idées. Ainsi, j'impose mes points de vue par la dictature. Voilà les quelques causes qui peuvent faire qu'il y a manque de dialogue entre les gens et particulièrement dans la famille.
Alors, qui est censé initier le dialogue au sein d'une famille?
Oh, n'importe qui, je dis. N'importe qui peut initier le dialogue. Si on a affaire à un homme taciturne, la femme peut initier le dialogue. Si on a affaire aux parents qui prennent des distances vis-à-vis des enfants, les enfants peuvent initier le dialogue. D'ailleurs, les petits-enfants ont toujours provoqué le dialogue avec leurs parents. Quand ils posent des questions, à l'âge de 3 ans, là, les enfants posent des questions, c'est une manière d'initier le dialogue. Mais souvent, ils sont repoussés, on considère que c'est un dérangement, on leur permet pas de communiquer, de dire ce qu'ils pensent. Ainsi, on tue petit à petit le dialogue. N'importe qui peut initier le dialogue dans la famille.
Jean Dambosch nous appelle de Colosie. Angèle est à Iziro, en province orientale. On commence avec Jean Dambosch. Bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Capi. J'ai deux questions à poser à l'invité du jour. C'est-à-dire, la première, je voudrais savoir quand est-ce qu'il faut dialoguer dans une famille. Et la deuxième, lorsque vous avez un papa ivrogne, c'est-à-dire chaque fois quand il rentre à la maison, il est toujours ivre. Donc, y a-t-il une possibilité ou soit une politique à établir pour dialoguer avec un certain papa? Et la deuxième question, je voudrais savoir, pour des parents qui sont presque absents à la maison, hein, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a d'autres parents, ils ont 2 femmes, 3 femmes, il peut arriver une semaine, il n'est pas à la maison, il est de l'autre côté. Et les autres qui sortent à 4h du matin pour aller au boulot et pour rentrer plus tard lorsque les enfants sont déjà dormis, soit la femme est au lit, c'est alors qu'ils rentrent. Est-ce qu'il y a possibilité d'établir une politique en ce qui concerne ces genres de gens que je viens de parler pour établir le dialogue dans la famille? Voilà mes questions.
Merci. Angèle, vous êtes à Iziro. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Ok, merci. Ce sujet est vraiment capital car il touche presque tous les domaines de la vie. Domaine politique, religieux, social, éducatif. Sans dialogue, la famille n'aura pas de fondement. Sans dialogue, il n'y a pas de communication. Sans dialogue, il n'y a pas aussi la présence des pieds. Dans d'autres familles, nous constatons par exemple que les enfants ont du mal à dialoguer avec leurs parents. En cas de problème, ils recourent à des tierces personnes pour en informer leurs parents. Qu'est-ce que l'invité peut nous dire à ce sujet? Et quel type de dialogue que les parents peuvent avoir avec leurs enfants, bien évidemment, qui sont déjà majeurs? Très souvent, nous remarquons qu'à un certain âge, les enfants évitent même leurs parents et préfèrent être à côté de ceux-là qui considèrent état de bons conseillers. Enfin, malgré le dialogue permanent, des petits problèmes ne matent jamais. Que les invités nous disent quel est alors le bien fondé d'un vrai dialogue. Je vous remercie, Jules.
Oui, Angèle, vous dites que les enfants, parfois, pour certains sujets, ils préfèrent aller s'adresser à des tierces personnes qui vont à leur tour parler aux parents. Ça porte sur quel sujet?
Oui, si il y a un problème, par exemple, la fille a un fiancé, il veut informer les parents à propos de son fiancé. Comme les parents sont toujours méchants, et la père, il faut qu'elle parte demander ou de parler avec le tate, les oncles, comme ça les oncles viendront de former les parents à cause de méchanceté des parents.
Parce qu'on a peur, les parents sont méchants, la fille a un fiancé, elle ne sait pas comment le dire tout de suite à ses parents, elle passe par une tante pour faire parvenir l'information aux parents. Merci. Isidore Bamanaï.
Oui, merci. Deux premiers intervenants, Jean Apolézi et Angela Isiro. Quand est-ce qu'il faut dialoguer, mon cher Jean? On peut dialoguer à tout moment, chaque fois qu'il y a un sujet sur lequel il est important de ne pas prendre la décision seule. Il faudra échanger pour avoir une vision plus large que ce que l'on pensait. Il faut vraiment saisir n'importe quelle occasion pour pouvoir dialoguer. Mais je crois qu'ici, le moment là doit être un moment calme, un moment où on n'est pas dans la nervosité, un moment où on est détendu. En ce moment-là, on en profite. Ça peut être à 6 heures du matin, ça peut être à midi, ça peut être à 16 heures, ça peut être à 18 heures. Donc, chaque fois que le climat est bon, chaque fois que les conditions s'y prêtent, faut pas attendre plus tard, il faut saisir le moment et mettre sur le tapis les problèmes autour duquel on doit dialoguer. Mais si un père est ivrogne, qu'il rentre toujours à la maison ivre, je crois qu'il y a, à un certain moment, l'ivresse va diminuer ou même disparaître. Et je crois qu'à ce moment-là, il faut les coincer et provoquer un dialogue avec lui, quitte à lui demander d'être un peu plus patient, de le préparer un peu psychologiquement, de ne pas aller tout droit au but, peut-être commencer à lui poser des petits problèmes, des petites questions autour de son service ou quoi que ce soit, et puis enfin lui dire, bon, on va glisser vers le dialogue, nous avons un problème ici, qu'est-ce que tu en penses? Donc, il ne restera pas ivrogne toute la journée, mais je crois que c'est quelqu'un qui met sa famille dans une position qui ne permet pas tellement de bien dialoguer, parce que même après l'ivresse, on risque de fuir le dialogue, de se laver vite, vite là et de partir de la maison. Mais il faut à tout prix saisir une occasion, quand il n'est pas ivre, pour pouvoir amorcer le dialogue avec lui. C'est la même chose avec ceux qui partent au boulot, qui reviennent tard. Je crois que, surtout entre conjoints, il y a moyen de dialoguer même à 2h du matin. Je crois qu'en ce moment-là, on se passe l'information sur la journée, on ressasse les problèmes des enfants, et puis on discute, on lève une mesure, peut-être quitte à la mère de rester communiquer avec les enfants, voilà, nous avons échangé avec papa, vous savez qu'il est trop pris, il n'a pas le temps de rester avec vous, nous avons échangé autour de vos problèmes là, voilà les solutions que nous vous proposons. En ce moment-là, je crois qu'on peut trouver un palliatif à ce genre de situation. Mais si les enfants ont du mal, selon notre ami Angèle Dissiro, les enfants ont du mal à dialoguer avec leurs parents. Et je ne sais pas pourquoi ils ont du mal à dialoguer avec leurs parents. Peut-être que les parents ont une attitude qui ne les laisse pas prendre le courage de s'approcher, ce qui est très très grave. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par de tierces personnes pour communiquer ce qu'on a de plus cher à ses propres parents? Moi, je crois qu'à un certain moment, ces enfants peuvent briser la glace et aller tout droit au but avec leurs parents, un ou à deux ou même à trois, peuvent se dire, bon, écoutez, le vieux là, quand il va rentrer aujourd'hui, allez, nous nous décidons, nous allons lui parler.
Mais Isidore, il y a des parents terroristes, dès qu'il arrive, le papa revient, dès qu'il entre au salon, tous les enfants s'enfuient, vont se cacher dans leur chambre, et les enfants surnomment souvent ces gens des parents, shérif, Kadhafi, maître Zoro, on leur donne des sobriquets, des petits noms comme ça, parce que c'est ces gens des parents qui ne favorisent pas les climats, n'instaurent pas un climat de dialogue, qui permet les dialogues au sein de la famille.
Oui, je crois qu'il y a des hommes comme ça, moi je les appelle des hommes timides, qui ne veulent pas affronter les autres en face, qui ne veulent pas écouter les idées des autres. Peut-être qu'elles-mêmes n'ont pas vraiment d'arguments pour un sujet ou un autre. Mais moi je crois que les enfants, si à un certain moment, ils prennent leur courage de dire « Non, papa, écoute, aujourd'hui là, nous avons besoin de te parler. » Il va entrer dans son terrorisme, les enfants peuvent se taire pendant un temps. S'il se calme un peu, il revient à la rescousse, il dit « Mais écoute papa, nous ne savons pas à qui exposer nos problèmes. Tu es là, tu es notre père, nous t'aimons bien, nous pensons que tu nous aimes aussi. Mais laisse-nous au moins te dire ce que nous voyons et laisse-nous au moins t'expliquer nos problèmes que nous avons sur le cœur parce que nous ne voyons pas à qui les exposer. » Je crois que même le plus grand terroriste du monde pourra un jour se dire « Tiens, je suis en train de maltraiter mes enfants quand je leur prive de parler avec moi. Mais avec qui est-ce qu'ils vont exposer leurs problèmes, même les problèmes intimes, comme l'a dit notre ami Angèle hein? Quel sujet doit-on aborder avec les parents? Tous les sujets qui ont trait à la vie de la famille, je crois qu'il n'y a pas de limite, qu'il s'agisse de besoins d'habillement, qu'il s'agisse des besoins d'études, qu'il s'agisse du mariage, qu'il s'agisse de la sexualité. Je crois que tous les sujets, on les aborde avec les parents, avec respect bien sûr, parce que si on s'appuie sur d'autres personnes, les autres personnes peuvent vous dérouter. Tu te rends compte, je dis, un jour on vient épouser une fille, sa mère la pousse vers son ami pour dire, allez causer avec mon ami là sur les histoires du mariage. Et dans l'entretien de son ami avec sa fille, son ami dit à la fille, tu vois, quand tu vas te marier, il faut avoir un petit amant à côté. Et c'est toujours comme ça chez nous ici. Nous, tes mamans ici, nous avons toujours des petits amants à côté. Et la fille a observé les principes qu'on lui a donnés. Ça crée des problèmes dans sa famille. Je crois qu'on ne peut pas utiliser d'autres personnes, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible
voilà.
Qu'on provoque le dialogue, même avec les parents qui sont très très méchants.
Très méchants, d'accord.
Les petits problèmes, même s'il y a dialogue, Angèle, les petits problèmes ne manquent pas. Mais quand il y a des petits problèmes, on passe pas le dialogue pour les résoudre.
D'accord.
À ce moment-là, la vie continue et il fait bon vivre, nous.
D'accord. Patrick nous appelle des Mbujimaï. Gaston est à Kinshasa. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour, Jody.
On vous écoute.
Oui, vraiment supportez-moi, hein, parce que je veux me porter en faux, hein, vraiment totalement, sur ce que dit Monsieur Isidore.
Oui.
Comme nous habitons la même ville, peut-être que nous pourrions nous rencontrer pour discuter abondamment. Mais je voudrais dire a priori que il ne revient pas aux enfants. Les enfants, ils sont en fait, il ne leur revient pas de donner un profil, hein, un créneau à l'éducation, hein, avec les parents. C'est plutôt l'initiative qui incombe naturellement aux parents que de définir, hein, le dialogue avec les enfants. La ligne éducationnelle, j'ai envie de dire tout simplement. La ligne éducationnelle, ce sont les enfants qui les définissent selon leurs propres valeurs à eux, les parents. Vous savez, la parentalité est très exigeante. Elle réclame beaucoup de choses. Aujourd'hui, on estime être un parent responsable lorsqu'on assure les besoins courants de la vie de tous les jours, la scolarité.
Oui.
Il n'en est rien. Alors, moi, je dis, ce dialogue-là, il faudrait d'abord que le parent soit l'émanation d'une famille dans laquelle cette éducation a prévalu. Si lui-même, cet enfant, qui est aujourd'hui le parent, qui est le parent d'aujourd'hui, n'en a pas bénéficié, immanquablement, il reproduira ce qu'il a vécu chez lui. Vous savez, en fait, les parents qu'on évoque là, les shérifs, les capitas, tout le nom dur qu'on donne aux parents, en fait, ce sont des parents déprimés, ce sont des parents qui sont eux-mêmes victimes de la mauvaise éducation qu'ils ont subie. Et naturellement, inconsciemment, ils reproduisent ce qu'ils ont subi. Alors, dans une telle situation, l'enfant n'est pas outillé pour amorcer, pour mettre en branle le dialogue. L'enfant
Patrick, vous dites que un parent est sorti d'une famille où il n'a pas appris à dialoguer. Alors, dans sa famille, il reproduit la même chose. Est-ce que il n'est pas permis que les enfants puissent quand même initier ces dialogues parce que le papa n'arrive pas à le faire?
Oui, monsieur Jody, c'est ce que je suis en train de dire. Je me dis, il est plus aisé de le dire plutôt que de le vivre. Vous savez, un enfant, il est le produit de ses parents. S'il doit entreprendre le dialogue, c'est peut-être après la puberté ou pendant la puberté. Mais je puis vous assurer, tous les éducateurs le savent, que lorsqu'il y a eu un barrage entre les parents et les enfants, on peut dire que ce barrage est irréversible. Un enfant ne se sentira pas inspiré, alors pas du tout inspiré, à parler à un père qui l'a regardé toujours comme le méchant de la maison. Ou la maman plutôt qui se défilait devant ses responsabilités à l'ombre de papa. Je peux vous assurer que c'est plus facile à dire, c'est une démarche rationnelle. Mais je vous dis que dans le vécu quotidien, c'est quasiment impossible qu'un enfant instaure un système éducationnel qu'il n'a pas trouvé, dont il n'est pas lui-même le produit.
D'accord.
Je pense que l'initiative revient aux parents, tout simplement.
D'accord, merci. Isidore va répondre tout à l'heure. Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Damien.
Quelle est votre question?
Oui, moi, je voulais demander à notre invité de nous préciser, est-ce que, parce que dialoguer signifie apporter ses contrats et recevoir de l'autre ce qu'il a. Et dans le cas où vous avez des parents, premièrement, ce n'est pas le même niveau. Ça veut dire, il y a l'un qui a plus étudié, qui suppose plus savoir que l'autre. Est-ce qu'il y a certains sujets qui peuvent être communs à ces deux parents, dont les enfants peuvent aussi en profiter? Ou il y a des catégories de sujets réservées à ces parents. Ça veut dire, telle catégorie revient à la maman et l'autre revient au papa. Parce que le dialogue, c'est que vous devez parler le même langage. Vous ne pouvez pas aborder un sujet dont il y a une partie qui ne maîtrise pas ce que vous tentez de dire. Mmh. Deuxième chose, c'est que comment faire face avec les coûts de vie actuels, parce que tout le monde est revenu sur ça, mais je n'ai pas trouvé vraiment une réponse concrète à M. Isidore.
Oui.
Comment faire face à ce problème de dialogue, vu en propre temps d'aujourd'hui? On sort le matin, on rentre tard, fatigué, on dort. Et très tôt le matin encore, on sort. Et quand nous avons le dimanche, où on peut avoir des... On commence par l'église, et après l'église, on a des visiteurs à la maison. Comment créer ce temps pour dialoguer avec les enfants? Comment avoir ce temps?
Voilà, comment créer ce temps pour dialoguer avec les enfants et avec son conjoint aussi. Comment créer ce temps. Et Isidore Bamalaï, vous avez la parole.
Oui, merci. Merci beaucoup à Patrick. Oui, je crois que Patrick a raison quand il dit l'initiative du dialogue doit venir des parents, et pas l'inverse. Mais dans les cas, comme nous l'avons dit, dans les cas où vraiment, les parents sont des terroristes ou ils sont le produit de ce qu'ils ont connu au niveau de leur propre famille et qui ne peuvent pas initier le dialogue. Je crois que les enfants n'initient pas le dialogue pour transmettre leurs propres idées aux parents. C'est surtout seulement pour évoquer un problème et chercher à ce que les parents y trouvent des solutions. Parce que dans la vie des enfants, il y a des problèmes qui arrivent, qui d'eux-mêmes ils ne peuvent pas trouver de solution. En ce moment-là, je crois que poser une question à son père ou à sa mère, c'est prendre l'initiative pour le dialogue, mais ce n'est pas pour transmettre aux parents les principes de vie. Ça serait l'inverse. Mais même à un certain moment, si on pense que les parents, là, tels qu'ils vivent, ça ne nous fait pas honneur, je crois que les enfants peuvent humblement et de manière polie dire à leurs parents, écoutez, ce que vous faites là, ça nous touche, ça nous bouleverse. Nous nous demandons pourquoi vous êtes en train de vivre comme ça. Et si les parents sont aussi humbles, je crois qu'à un certain moment, ils peuvent se dire, nos enfants ici ont raison, nous devons cesser de faire ce que nous faisons parce que ça ne les honore pas. Je ne dis pas que c'est ça, c'est une manière de vivre que les enfants prennent l'initiative du dialogue, mais au moment où ils n'ont pas l'occasion de parler avec leurs parents, le père est là et donne des principes, et puis dit « est-ce que vous avez compris ?» Les enfants ont dit « oui, nous avons compris », et puis ils s'en vont. Je crois qu'à un certain moment, ils peuvent prendre l'initiative. Gaston, à Kinshasa, je n'ai pas très bien suivi toutes ces préoccupations.
Oui, Gaston a dit ceci, il se retrouve dans un couple où l'un des conjoints a beaucoup étudié, plus que l'autre. Alors, quelle catégorie des sujets à aborder? Parce que il y a des sujets que l'autre ne maîtrise pas à cause de son niveau d'études.
Ah, mais écoutez, si un des conjoints a beaucoup étudié, on va s'éloigner des sujets scientifiques, on va parler des sujets ayant trait à la vie ordinaire. À la vie ordinaire de tous les jours ici. Nous avons l'argent, nous avons les enfants à la maison, comment les éduquer, comment utiliser notre argent, comment vivre avec les membres de la famille élargie, comment vivre avec les voisins. Si on va à l'église, on va dans quelle église? Après qu'on ait écouté la prédication, on peut échanger autour de la prédication. Donc, on ne va pas parler informatique, on ne va pas parler, c'est pas d'autres sujets scientifiques. Même si celui qui a étudié a aussi le devoir de temps en temps de passer des bribes d'informations sur le plan de la science, maintient le dialogue autour des petites questions de la vie courante. Parce que, à un certain moment, comme on l'a dit, si on a deux niveaux de langage différents, se mettre d'accord autour d'un sujet devient difficile. Et alors, il faut vraiment que celui qui a étudié se mette au niveau de celui qui n'a pas étudié pour trouver un terrain d'entente.
D'accord.
Veiller le temps, il appartient au couple d'analyser sa propre situation et de se dire, le dialogue est tellement important que nous ne pouvons pas vivre sans dialogue. Trouvons le temps pour dialoguer.
Bien, Clément nous appelle de Mbujimaï. Clément, bonjour.
Bonjour, c'est Daniel, bonjour à l'invité.
Nous parlons du dialogue en famille, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je voudrais remercier l'invité par rapport à ses réactions et à ses réponses qui sont beaucoup plus pertinentes. Ma préoccupation est de savoir quelle différence fait-on maintenant entre dialogue et instruction. Parce que dans la plupart des ménages que nous côtoyons ici, plus particulièrement Mbujimaï, les parents sont beaucoup plus instructifs que promoteurs de dialogue. Donc, quand les enfants suggèrent un problème ou ils viennent avec un problème, les parents sont beaucoup plus éducatifs que dialogueurs.
Un exemple, Clément.
Voilà, un exemple. C'est-à-dire que l'enfant peut venir avec un problème concret sur la sexualité, par exemple, vis-à-vis de sa maman, vis-à-vis de son père. C'est-à-dire qu'au lieu que le père ou bien la mère dialogue de montrer comment l'enfant doit se comporter dans la vie, comment il doit user de cet acte vis-à-vis des hommes ou bien vis-à-vis des femmes, donc il ne reçoit que les instructions, que le dialogue. Donc il ne faut pas faire ça. Tu dois tuer une fille. Voilà, il ne faut pas faire ça. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de dialoguer avec sa fille ou bien son enfant garçon, c'est-à-dire que l'enfant ne reçoit que les instructions.
Dans la
plupart des ménages, c'est ça ce que nous sommes en train de remarquer.
Oui.
Maintenant, quelle différence M. Isidore peut donner à ce commun de mortel qui est en train de nous suivre en ce moment par rapport à la différence entre dialogue et instruction que les enfants reçoivent et sont imposés, qu'on leur impose vis-à-vis de leurs parents?
D'accord. Isidore Bamanaï.
Oui, merci Clément. Vous êtes à Bujumbaï, je crois que vous êtes sur terrain, c'est souvent ce que nous vivons. Les parents transmettent des instructions à leurs enfants, au lieu qu'après avoir transmis les instructions, qu'ils demandent le point de vue des enfants pour que les enfants puissent aussi dire ce qu'ils pensent vis-à-vis de ces instructions. Malheureusement, c'est ce que nous vivons tout le temps. Mais le dialogue, comme je l'ai dit avant, c'est échanger les idées entre deux personnes, ou entre un groupe, ou dans un groupe. L'un parle, et après, les autres parlent aussi. Mais les instructions, c'est comme les instructions de service qu'on reçoit sur une circulaire, qu'on reçoit du chef du travail. Je crois qu'en ce moment-là, c'est différent. Et pour la plupart des cas, comme vous l'avez expliqué vous-même, Clément, les enfants reçoivent des instructions plutôt que ouvrir une petite possibilité pour le dialogue. Le dialogue assouvit les préoccupations des enfants, tandis que les instructions laissent des points d'interrogation qui n'ont pas de réponse. Et je crois que nous pouvons inviter les parents à aller plus vers le dialogue que de transmettre les instructions. Quand bien même à travers le dialogue on transmet les instructions, mais on les fait accepter en utilisant une argumentation solide pour pouvoir amener les enfants à adhérer aux instructions qu'on leur donne. Donc, il faut concilier les deux de telle manière que ce qui est instruction soit intériorisé, non pas parce que le père a grondé, a menacé, mais plutôt parce que on a bien expliqué après des questions que les enfants ont posées et que les enfants ont fini par dire « Ah oui, c'est important ce que vous avez dit là.
Mmh. » Bien, Kasereka nous a écrit de Butembo, il dit « Comment dialoguer avec celui qui ne veut pas communiquer avec vous ?»
Ah, je crois que dans le cadre de la famille, s'il y a un membre qui ne veut pas communiquer avec les autres, là il y a un problème, il faudrait peut-être aller voir un psychanalyste pour qu'on essaye de voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau, pourquoi il y a ce blocage, pourquoi est-ce qu'il n'aime pas tellement communiquer avec les autres. Il y a des gens qui sont sédentaires, qui sont plus renfermés, ça peut arriver, mais si peut-être les sujets que vous abordez sont ennuyés pour lui, abordez les sujets les plus intéressants. C'est là aussi peut-être que les gens refusent de communiquer. Ils trouvent que le problème que vous voulez traiter avec lui, c'est un problème banal. Et alors il dit, je ne peux pas perdre mon temps à traiter ce genre de problème. Donc il faut partir du centre d'intérêt, trouver des sujets qui sont plus intéressants pour l'autre, parce qu'on les connaît, parce qu'il est là avec nous tout le temps. Je crois qu'en ce moment-là, on peut l'entraîner même vers nos autres sujets sans qu'il s'en rende compte.
Président Bamanaï, certains disent que le meilleur moment de dialoguer, c'est autour du repas, autour de la table, toute la famille est réunie, on partage un repas et on a le temps d'échanger, de poser des questions aux enfants, et les enfants vous posent des questions, ou soit lorsque la famille est regroupée le soir en train de regarder la télé, parfois il faut fermer même la télé pour permettre un dialogue, pour que le dialogue s'instaure.
C'est un moment, mais ce n'est pas l'unique moment.
Oui.
Encore faudra-t-il que les parents ici s'habituent à manger ensemble dans la famille. Si nous sommes dans une société où les gens mangent à tour de rôle, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront le temps de dialoguer autour d'une table. Peut-être dimanche que tout le monde est à la maison. C'est un meilleur moment parce que quand on mange, on est plus près l'un de l'autre, on a de bons sentiments, on peut dialoguer. Mais vous savez que dans certaines familles, on dit pendant que l'on mange, on ne parle pas.
Ah.
Et quand quelqu'un parle avec les aliments dans la bouche, on le traite d'impoli. Donc, c'est pas le seul moment. N'importe quel moment peut se prêter au dialogue. Il suffit que ceux qui dialoguent soient disposés à dialoguer en ce moment-là.
Voilà. Et quels sont les avantages qu'on tire lorsqu'on a créé un climat de dialogue au sein de la famille?
Oui, je crois qu'il y a un grand avantage qu'on a laissé tomber le masque. On se découvre les uns les autres, on peut s'apprécier autrement, et alors je crois que la vie s'améliore, le climat devient bon. Parfois même, on est pressé pour rentrer chez soi parce qu'on va rencontrer les gens avec qui on échange, les gens qu'on apprécie. Donc c'est vraiment un grand bénéfice d'introduire le dialogue dans la famille pour avoir un climat plus favorable pour peut-être aussi résoudre des petits problèmes, des petits conflits qui arrivent inhérents à la vie de chaque jour.
Isidore Bamanaï, éducateur à la vie, intervenant depuis Mbujimaï. Merci et bonne journée à Mbujimaï.
Merci, jeudi. Au revoir aux auditeurs de la radio.